Europe 1,
9h-11h,
Wendy Bouchard.
On prolonge quelques instants, chers amis auditeurs, notre sujet sur l'abandon des animaux. La France championne d'Europe, triste palmarès. 100 000 animaux abandonnés chaque année, 60 000 au moins chaque été. Pour 61 millions d'animaux domestiques en France, ce sont de grandes proportions. 10 millions de chats, presque 8 millions de chiens. Tous les nouveaux animaux de compagnie peuplent aujourd'hui nos foyers. Un quart des foyers français, par exemple, possèdent un chien. 27% possèdent au moins un chat. Ce sont des chiffres qui prouvent que la France aime les animaux. Ça, c'est une certitude. On n'est plus à 30 millions d'amis et à hutins, mais à 60, voilà, vous doublez la mise en quelques années. Le problème, c'est qu'il y a un taux quasiment incompressible d'abandon et vous montrez dans un clip bouleversant sur les réseaux sociaux en ce moment, sur l'antenne d'M6 à la télévision, cette réalité qui n'est pas dans la caricature mais dans la réalité. Et j'aimerais qu'on reçoive Antoine, son témoignage va vous intéresser aussi. Antoine, vous êtes en ligne avec nous d'Auxerre au 3921, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour, madame.
Et vous êtes ancien responsable d'animalerie, Antoine. Alors, on a parlé des animaleries il y a quelques instants avec cette question. Est-ce qu'il faut les fermer? Est-ce qu'une bonne animalerie, ça existe, avec des conseils à la clé? Voilà, que vous a enseigné cette expérience?
Eh bien, c'est exactement ça. J'écoutais tout à l'heure votre émission et je rejoins tout à fait les arguments qui sont donnés, notamment votre expérience avec l'animalerie du Pont-Neuf ou ce que disait le monsieur le député tout à l'heure. Mais j'ai le sentiment qu'on regarde un peu le problème par le bout de la lorgnette. Et quand on parle de fermer des animaleries, il faut pas oublier que des animaleries, on ne vend pas que des chiens et des chats. Vous avez des lapins, vous avez des cochons d'Inde, des oiseaux, des poissons. Ouais. Normalement, une animalerie, c'est légal. Vous avez forcément un responsable qui est capacitaire, titulaire d'un capacitaire sur la vente et le transit d'animaux. Ce capacitaire-là, il est délivré par la direction des services vétérinaires, donc la DSV, ouais. Et il est censé appliquer des règles. Maintenant, les lois existent et quand vous avez des animaleries qui ne font pas bien leur métier, déjà qu'on applique les lois et qu'on les ferme simplement. Mm-hmm. Peut-être que les chiens et les chats ne devraient plus être vendus en animalerie, mais quand vous avez des animaleries qui appartiennent à des groupes, je pense à des animaleries de Jardiland,
c'est ça, de grandes jardineries qui ont un côté animalier.
De grandes jardineries, oui. Je peux vous assurer que les fournisseurs, alors déjà ce sont des animaleries qui ne vendent pas de chiens ni de chats, mais les fournisseurs qui y sont référencés font l'objet quand même de contrôles assez stricts, oui. Respectent des cahiers des charges stricts, et les animaux sont extrêmement bien entretenus.
Oui, la question c'est de savoir simplement est-ce qu'on doit acheter des animaux dans des boutiques comme on achète des vêtements, mais pour le reste, il est vrai que Réa-Hutin, il y a quand même des règles et que si ça ne va pas, ce sont ou les services vétérinaires ou l'État dans sa globalité qui ne fait pas son boulot d'enquête.
Il y a à peu près un mois, il a fallu qu'on récupère plus de 5000 petits rongeurs dans une usine à animaux qui avait fait faillite et ces animaux étaient laissés à l'abandon. Heureusement que toutes les associations, que ce soit Bardot, Assistance aux animaux, on s'est mis tous ensemble, les petites associations sur le terrain, on s'est mis tous ensemble pour sauver ces 5000 animaux. Comment donc, c'est oui, terrible, cette surproduction,
c'est ça,
pour
le problème, achalander c'est ce qui se passe
les animaleries.
Mais pourquoi et finalement, cette entreprise c'est encore a fermé plus.
Ben parce que le gars a fait faillite et puis il a laissé ça, il les a laissés comme ça dans l'état.
Il a fait faillite, ouais. Mais c'est pas parce que c'était pas en bon état. Ben,
c'est-à-dire, oui, au bout de 10 jours où les animaux n'avaient plus d'eau ni de nourriture, ils étaient en train de mourir dans cette usine.
Donc c'est vrai.
Non, mais c'est justement ces usines qui alimentent en petits animaux de compagnie, les fameux NAC, qui alimentent et qui font de la surproduction pour être sûr de vendre.
C'est ça le problème.
C'est ça, il faut vraiment réglementer ça.
Ces petits rongeurs-là ne font pas partie des NAC. Les NAC, c'est tout ce qui va être reptile, des araignées, des choses comme ça.
Mais non, le NAC, c'est quand même le furet. Non, monsieur, c'est le NAC, c'est le furet. C'est le hamster, c'est la petite souris qu'on vous vend dans les animaleries, c'est le petit hamster, c'est le cochon d'Inde. C'est des choses que les personnes achètent.
Les souris ne font pas partie des NAC.
D'accord, ils font partie de quoi?
Ils font les serpents.
Ah ben non, pas du tout, monsieur. Non, non.
Les furets peuvent faire partie des NAC, mais c'est pareil. Quand vous avez des NAC, Vous devez obligatoirement être capacitaire. Alors,
je comprends ce que vous dites, non. Antoine, parce que c'est un
nouvel animal de compagnie. Donc voilà, c'est très large.
Mais Antoine, peu importe un petit peu la nomenclature. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'il y a ces règles, la direction de services vétérinaires. Le problème que souligne Réa, c'est qu'il y a aussi tous ces élevages intensifs en amont et que là, vous ne maîtrisez pas, vous, en tant que responsable d'animalerie, c'était pas votre problème, j'allais dire. Mais cette réalité existe, c'est-à-dire.
Moi, par exemple, je faisais partie d'une grande enseigne et je travaillais avec le siège en tant que référent parce que des commissions étaient faites avec différents responsables d'animalerie de différents points de vente en France, justement pour apporter notre expérience et notre savoir pour aider le siège à déterminer quel type de soins et d'élevage on allait référencer sur le groupe.
C'est d'ailleurs
dans une
l'origine,
démarche, on va dire,
un peu de transparence.
C'était absolument éviter au maximum tous les élevages belges, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les Belges, en termes de rongeurs et d'oiseaux, sont des très gros pourvoyeurs, mais sont très laxistes au niveau de l'application des lois, et on a souvent des animaux qui sont de mauvaise qualité. Je parle de ça comme un produit, mais quand vous avez dans votre élevage, ça m'est déjà arrivé, de rentrer des animaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous achetez des animaux pour mettre dans vos batteries à la vente, vous avez forcément d'anciens animaux encore. Vous avez toujours le risque d'apporter de nouvelles maladies.
Et qu'est-ce que vous en faites, pardon, parce que c'est toujours la question qu'on se pose, les chiots qui ne sont plus des chiots à partir de 7 mois que vous n'avez pas vendus.
Je n'ai jamais vendu de chien ni de chat.
Ah oui, d'accord. Donc ça, voilà,
j'ai toujours travaillé en animalerie qui ne vendait pas ni de chat.
Très bien.
Donc c'est pour ça que quand j'écoutais votre débat où on ne parlait que des chiens et des chats, ce qui doit représenter peut-être 98% de la population de la SPA. Je ne remets absolument
ça,
pas
sûr
en cause, mais quand on dit qu'il faut fermer les animaleries, il ne faut pas regarder les animaleries qu'avec les chiens et les chats.
Écoutez, merci d'avoir apporté votre pierre à l'édifice de cette réflexion, Antoine, depuis Auxerre au 39-21. Un petit mot de Catherine de Chambourcy, qui est tout à fait d'accord pour un permis de détention comme font les Suisses. Décidément, c'est quelque chose qui marque. Juste après la pause, un tout petit mot sur la plateforme qui est très importante avant les vacances, plateforme départ entre amis, ma chère Réa, et après je vous libère, à tout de suite.
Nous prolongeons pendant quelques minutes encore cette première heure d'émission, le tour de la question consacrée aux abandons d'animaux de compagnie chez nous en France.
Pour que le départ en vacances ne soit pas un argument à l'abandon de votre animal, au mieux en refuge, au pire sur la voie publique, dans les friches ou dans les jardins. Réa Hutin est avec nous, présidente de la Fondation 30 millions d'amis. Vous avez dédié à toutes ces questions-là une plateforme, nosvacancesentreamis.com. Qu'est-ce qu'on y trouve, Réa, sur cette plateforme ?
On y trouve absolument tout pour passer de bonnes vacances avec ces animaux, parce que les vacances avec un animal, ça se prépare. Donc, en effet, grâce à l'intelligence artificielle, vous arrivez sur cette plateforme, vous répondez à quelques questions. Est-ce que c'est un chat ? Où est-ce que vous voulez aller ? Et immédiatement, vous avez une fiche personnalisée qui vous dit exactement tout ce que vous devez faire avant de partir, sur le lieu de villégiature, etc. Donc, c'est vraiment un outil indispensable, parce qu'il y a tous les conseils possibles et imaginables. Et ça vient compléter notre appli 30 millions d'amis vacances, qui, grâce à une géolocalisation, vous indique tous les endroits pet-friendly qui vont vous accueillir avec le sourire et un bol d'eau pour le chien. Donc, en effet, on a répertorié tout ça afin que vous puissiez vraiment, que ce soit les plages, que ce soit les gîtes, etc. Donc, ce sont des outils indispensables parce qu'il faut accompagner les personnes. Parfois, c'est un parcours du combattant de trouver un endroit, mais ça va de mieux en mieux parce qu'il y a des lieux de villégiature aujourd'hui qui l'utilisent comme argument de vente en disant venez, on vous aime avec vos animaux. Donc ça, c'est très nouveau et c'est formidable.
Et qui sont dans cette veine de sensibilisation pour répondre à Brigitte de Bordeaux qui est outrée pour ses abandons, mais qui dit que tout est interdit aux chiens pendant les vacances, les restaurants, les parcs, les plages. Il faudrait arranger ça en créant des garderies pour chiens. Ça existe, hein, ça, pendant les vacances,
bien sûr,
par exemple.
De plus en plus. Là, vraiment, on essaye d'aménager tout pour les maîtres d'animaux. On est quand même 52% en France à avoir des animaux.
Voilà, un Français sur deux. Un petit mot de Valentine de Montpellier qui travaille pour une plateforme, ça c'est une initiative parallèle parce qu'il y en a partout dans toutes les régions de France, emmène-ton-chien.com, qui facilite les vacances autour de Montpellier et dans l'Hérault, en répertoriant les activités et les endroits, par exemple, qui acceptent les chiens. C'est tout à fait complémentaire de votre grande initiative, Réa Hutin. Merci beaucoup pour vos paroles, vos mots partagés, puis pour votre volonté de faire, avec les autres grandes figures de la cause animale. Je vous aime beaucoup, par ailleurs, et puis je vous suis reconnaissante au nom de tous les auditeurs pour ce que vous faites régulièrement depuis des années, ce travail de sape qui est essentiel. Merci beaucoup, cher
Réhoutin,
et de construction. À bientôt sur l'antenne d'Europe 1. On va parler amour, alchimie, chimie, mathématiques, s'il vous plaît, pour parler des jeux du hasard, peut-être un peu dans le couple aussi. À tout de suite.
Europe 1,
9h-11h,
Wendy Bouchard.
Merci de prendre place désormais dans notre grand salon Europe 1, côté boudoir, pour parler d'intimité et plus précisément d'amour, ma chère Julie. Les mathématiques du couple, c'est ce que publie l'un de nos invités pour lequel il y aurait une explication scientifique finalement au couple, à sa longévité, à la pérennité amoureuse. Mathématiques, chimie, alchimie, qu'est-ce qui explique l'attirance entre deux êtres? Le parfum, la texture de la peau, la voix, la communion de pensée, mais toute une, peut-être une affaire aussi d'hormones dans l'histoire, notre deuxième invité nous le dira. On peut être fondamentalement différent, passionnément complémentaire, de la rencontre à la construction de l'histoire d'amour. On répond à toutes vos questions à la matière au standard d'Europe 1, vos témoignages qui seront éclairants, Julie, également.
Au 39-21, 50 centimes la minute.
Voilà, et tout commence en chanson, vous le savez.
Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras. Je ferai le tour du monde, que ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi.
Mon manège à moi, quand la chanson rejoint la poésie, et la poésie, le sentiment humain. Bonjour Laurent Pugeot, Monjouet.
Bonjour Wendy.
Merci d'être avec nous, vous êtes venu de Lyon ce matin pour nous présenter votre ouvrage, Le jeu de l'amour sans le hasard. Comment un docteur en mathématiques a pu s'intéresser au couple? C'est ce qu'on va voir dans quelques secondes, le temps de vous présenter notre autre deuxième invité que je suis ravie d'accueillir dans ce studio, Lucie Vincent.
Bonjour.
Bienvenue, bonjour. Neurobiologiste, auteur notamment de Faites danser votre cerveau et de L'amour de A à I. XY, toujours chez Odile Jacob. Cela va aller exactement dans le sens de notre échange ce matin. Derrière les sentiments, Laurent, il y a des réalités physiques, d'attraction, par exemple, qu'on peut expliquer avec des modèles mathématiques?
Oui, c'est à la fois physiologique, parce que c'est un échange d'hormones.
Bien sûr.
Et physique, c'est, pour vous donner un exemple, c'est assez simple. Au début de la relation, l'attirance est plus ou moins physique. Durant les 3 à 6 premiers mois, tout est super beau. On est très attiré par la personne. Puis un peu comme un parfum, il y a une sorte, pas d'usure, mais d'habituation. On s'habitue à l'autre. Et c'est moins le physique qui va ressortir, mais plus le charme ou les petits travers de l'autre qui vont peut-être ressortir ou pas. Et c'est à ce moment-là que mon modèle mathématique, enfin toutes mes équations mathématiques et mon livre va être utile. C'est qu'on va essayer justement de voir comment on fait, on procède à cette transition, à ce passage, et c'est à ce moment-là à savoir comment est-ce qu'on va essayer d'avoir, par des paramètres qu'on va utiliser, essayer de vraiment garder le fil et le couple et le faire durer le plus longtemps possible.
C'est-à-dire que vous ne remettez pas du tout en question, par exemple, le coup de foudre, l'amour au premier regard, hein, vous expliquez bien. Il y a probablement cette part un peu de chimie et de miracle pour la première attirance.
Complètement. Ça fait partie d'une sorte de magie, etc. Même s'il y a des applications de rencontres, etc. Moi, je ne suis pas très pour.
Oui.
Je trouve que c'est quelque chose de complètement magique. Ça dépend complètement de notre état d'esprit au moment de la rencontre. Par exemple, la semaine d'avant ou après la rencontre, on aurait pu passer à côté de cette personne-là. Et ça, c'est complètement des probabilités du hasard. Ce n'est pas mon but.
D'accord.
Moi, le but, c'est vraiment de garder le couple heureux le plus longtemps possible après, justement, ce coup de foudre.
Bon, vous n'avez pas eu besoin d'éclairer Julie, mais qui peut être votre cobaye. 38 ans de mariage, voilà.
Félicitations.
Vous félicite, chère Julie, aujourd'hui même. C'est ça qui est bon.
Juin.
Voilà. Lucie, Vincent, vous croyez, pour le coup, au coup de foudre, justement. Donc, on est complémentaires dans cette approche des choses. L'amour au premier regard, c'est absolument possible.
Oui, pour l'avoir vécu, j'en suis certaine. D'avoir vu beaucoup de témoignages. Et puis, comme vous le savez, j'ai longuement travaillé la question en termes bibliographiques. J'ai regardé un petit peu les phénomènes qui peuvent nous expliquer ça. Et je pense, Laurent, quand même, qu'aujourd'hui, vous travaillez sur la formule mathématique qui nous permet de rester très longtemps ensemble. Je pense que quand vous allez un petit peu plus avancer dans la recherche sur l'amour, parce que c'est quelque chose qui vous intéresse, de toute évidence, que même le coup de foudre que vous dites, c'est des jeux de hasard, personnellement, je crois qu'il y a beaucoup de facteurs mesurables qui rentrent en jeu et qu'on peut éventuellement assimiler à une sorte de formule pour prédire qu'est-ce qui va faire qu'on va tomber follement amoureux dans l'instant de quelqu'un ou d'autre.
Ah, c'est intéressant ça.
Vous avez
ça.
L'air très douteux par
rapport.
Oui. Mais par exemple, les facteurs, Lucie, mais c'est une prédisposition hormonale justement, par exemple
Oui, tout à fait. Mmh. L'âge de la personne, l'historique de fertilité,
oui.
L'état hormonal dans le sens où il y a des gens qui libèrent certains types de phéromones et dans leur transpiration et d'autres qui sont complémentaires et tout la forme physique de la personne qui rentre en jeu, on a une attente qui est due à notre histoire d'enfance. Alors c'est vrai que ça fait une multitude de facteurs. Alors peut-être en tant que mathématicien vous allez me dire mais à partir de N facteurs qui rentrent en jeu, on appelle ça le hasard.
Oui.
Ça, oui, peut-être. Mais dans l'absolu, je crois que c'est un certain nombre de choses qui déterminantes.
Ouais, c'est très intéressant. Ouais. Alors, on va parler d'un de vos éléments de recherche qui est formidablement passionnant, l'ocytocine, cette hormone de l'attachement sur laquelle vous revenez également, Laurent, juste après la pause, qui nous permet peut-être de répondre à cette première question. Combien de temps dure l'amour ? Eh bien, il peut le durer toute une vie, mais avec des étapes qu'il faut savoir franchir. Et on reviendra notamment sur cette formule. L'amour dure 3 ans. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous l'étudiez aussi avec une sorte de modélisation mathématique. Laurent Pugeot-Mangeois est avec nous pour le jeu de l'amour, mathématiques du couple aux éditions Équateur Sciences, et Lucie Vincent également, l'amour de A à XY chez Odile Jacob. À tout de suite.
Europe 1. Je dis M et je le sème sur ma planète. Je dis M comme un emblème, la haine je la jette.
M. Comme Mathieu Chédid, mais oui. Comme M. Hein, c'est le verbe aimer que nous conjuguons jusqu'à 11h, ma chère Julie, avec nos invités. Il vient de Lyon pour nous présenter son ouvrage « Le jeu de l'amour sans le hasard, mathématique du couple Laurent Pugeot-Mangeois », alors que les bacheliers au futur, en tout cas, travaillent aujourd'hui à l'épreuve de mathématiques. Je ne sais pas si certains se regarderont en coin en disant « mais il y a probabilité ou pas que ça se passe bien entre nous ». Lucie Vincent, en tout cas, je vous remercie parce que vous avez le livre de notre invité aussi sous les yeux.
Oui, vous me l'avez passé à l'instant et j'ai feuilleté et franchement, c'est super. C'est une excellente idée d'avoir fait ça. Je vois les travaux dont vous parlez dedans. Je connais bien John Gottman et tout ce qu'il a fait sur le couple et la durée du couple. Et d'avoir formalisé un petit peu ça avec les courbes que vous donnez, je pense que ça peut vraiment rendre service.
Et j'ai surtout essayé de les rendre accessibles à tout le monde.
Oui, alors moi j'ai sauté les équations parce que je ne comprends rien en maths, mais bon, il y a une ouverture très accessible justement avec beaucoup de références musicales. M fait partie aussi de votre musique, comment on dit, musicothèque, voilà, peu importe. Et la bibliographie discothèque, aussi, discothèque, c'est mieux. Hein. Voilà, ça existe. Et évidemment, quand on est un amoureux, justement, comme vous avez l'air de l'être, docteur en mathématiques, mais amoureux de la littérature, des mots, est-ce que quand on se frotte à ce sentiment amoureux par le biais des maths, c'est pas décevant ?
Ah non, c'est super stimulant. Parce que vraiment c'est à la fois un champ de recherche assez neuf, très très récent, ça date de 98, et on en est vraiment au balbutiement, et justement au fur et à mesure où, enfin, plus je l'étudie avec les recherches bibliographiques, avec les équations de mes prédécesseurs,
oui.
Plus je me pose de questions et plus les réponses deviennent beaucoup plus fines. Et en plus, on a des exemples. Alors, dans le livre, les exemples que je prends sont plus dans la littérature ou dans le cinéma. Je prends Jules et Jim pour les couples les troupes, on va dire.
Les troupes.
Oui.
Bah, vous prenez Cyrano de Bergerac
pour le mensonge.
Magnifique. Oui.
Et l'évolution, justement, du charme. Je parlais de l'évolution du charme. Au début, c'est pas du tout gagné. Hein. Cyrano est... Roxane n'a aucune attirance physique pour Cyrano, et c'est tout au long du livre que l'on voit que Roxane change complètement son point de vue de Cyrano.
Elle va tomber amoureuse des mots. Hein.
Et c'est exactement cette évolution dans les paramètres qu'on peut expliquer, où on voit vraiment l'évolution des équilibres hein, qui vont du côté assez... C'est mal parti pour Cyrano jusqu'à la fin, en étant complètement bénéfique pour Cyrano.
Mais qu'est-ce qui s'est passé il y a 20 ans? Vous dites que ça a commencé en 1998, cette recherche de modélisation mathématique de la durabilité du couple. C'est-à-dire comment on explique que ça marche, et ça marche parfois très longtemps, entre un homme, une femme, entre deux hommes, deux femmes.
Alors, on parlait du bac de maths ce matin, et ça a commencé même 10 ans auparavant, pour intéresser, c'était un professeur de maths américain, qui s'appelle Steven Strogatz, qui voyait ses étudiants qui s'ennuyaient quand on parlait de ressorts et de pendules qui oscillent, etc. Oui. Et on ne voyait vraiment pas l'utilité, en tous les cas à court terme, etc. Et il a pris la même équation, les mêmes outils mathématiques, et leur a dit, on peut l'expliquer, enfin on peut expliquer les couples et la durée de l'amour avec les mêmes outils mathématiques. L'auditoire de ce professeur a changé complètement.
Réveille.
Et la motivation, et c'est ce que j'arrête pas de dire aux professeurs de maths, s'ils arrivent à nous écouter aujourd'hui, de dire, trouver des exemples qui accrochent les étudiants et les motiver. Et en 98, il y a eu ce professeur, Sergio Rinaldi, italien, qui a pris une étude des poèmes de Pétrarque. Pétrarque était un auteur dans le XIVe siècle qui a écrit 366 poèmes d'amour pour Laure de Sade, oui, qui est une aïeule du marquis de Sade, et qui...
Morte très jeune, et il lui a écrit beaucoup de poèmes alors qu'elle était disparue. Hein.
Oui, exactement. Et ce qui s'est passé, c'est que ces poèmes n'étaient pas datés, et un chercheur spécialiste de la littérature italienne a essayé de les dater et mettre quelques points sur une sorte de graphe, et dire celui-là était avant celui-là, etc. Et en mettant des valeurs, c'est-à-dire que soit il était exalté, très amoureux, soit il était très déçu parce que Laure s'en allait. Et ces points, ce mathématicien italien a vu tout de suite hein, que ça formait comme un cycle. Et il a dit, ben, cycle, équation mathématique, on va essayer de formaliser ça. Ouais. Il a formalisé ça avec justement une équation, enfin un système à trois équations. L'amour de Laure pour Pétrarque, l'amour de Pétrarque pour Laure, et l'inspiration qui jouait aussi. Mm-hmm. Parce que quand il était très inspiré, du coup, il allait dans sa chambre écrire et il s'éloignait de Laure. Ouais. Et en fait, tout ça, ce petit ménage à trois, on va dire, a fait qu'il a réussi à faire un système d'équations et pile à faire passer ses courbes dans les points qui étaient les points de datation des poèmes. Il a même pu prédire certaines datations de poèmes. Et ça a été le début de l'histoire des équations sur l'amour de façon très formelle et beaucoup plus sérieuse pour intéresser
c'est
les
très
les étudiants.
Joli, Julie.
Alors, vous parlez beaucoup de mathématiques, d'équations mathématiques, d'alchimie du couple et tout ça. Mais je trouve qu'on ne parle pas de rencontres intellectuelles qui après devient une véritable entente intellectuelle après la rencontre. C'est quand même important, ça.
Ah, mais complètement. Et c'est ce que je disais tout à l'heure.
Mais vous parlez trop de chiffres et de graphiques et de je sais pas quoi, mathématiques.
il faut en mettre, de toute façon. Il faut illustrer ça.
C'est quand même essentiel, je trouve, la rencontre intellectuelle.
Bien entendu. Alors, je suis complètement d'accord avec vous dans le sens où il faudrait que je parle même des ocytocines de plus en plus en détail, etc. Mon livre ferait 400 pages et les équations seraient encore plus compliquées.
C'est intéressant,
mais
Julie, parce
qu'on en tient compte exactement.
Ah oui, parce que est-ce que c'est important, mais est-ce que c'est capital la rencontre intellectuelle où justement nos milliards de neurones et nos hormones font davantage que cette connexion des synapses et des intelligences, Lucie Vincent.
Bah oui, c'est un petit peu le sujet du livre que j'avais écrit qui s'appelait Petits arrangements avec l'amour, parce que le premier livre parlait beaucoup du coup de foudre et qu'est-ce qui se passe au niveau hormonal quand on se rencontre et cette espèce de feu d'artifice et on devient fou de l'autre et on fait l'amour comme des fous pendant 3 mois, 6 mois, 1 an. Oui. Et puis il arrive un beau jour où on voit l'autre différemment. Tout d'un coup on se réveille parce que tout ça c'est une sorte de folie. Le cerveau change vraiment sa façon d'être. On dit l'amour est aveugle, c'est vrai. On devient addict de l'autre, c'est vrai. Et tout ça c'est des phénomènes dans les neurones. Mais il y a une acclimatation, ça s'arrête un jour. On se réveille et on voit l'autre différemment. Et on se dit, bon, il m'a trompé. Et c'est à partir de ce moment-là...
Vous voulez dire, il m'a trompé sur la marchandise ?
Oui, que la vraie histoire d'amour commence ou alors n'a pas lieu. Et c'est là où la rencontre intellectuelle prend tout son pouvoir et on devient le meilleur ami à vie de l'autre. Et on commence à créer un autre type d'échange que j'appelais dans les livres l'amour-amitié, qui explique. Et c'est là où le travail de John Gottman, que vous avez modélisé dans votre livre, prend toute son importance. Parce qu'il avait une méthode, John Gottman. Il prenait des couples tout au début de leur relation et il disait, je vais pouvoir prédire, je ne sais pas, 90%,
plus de 90%,
si votre couple va durer ou pas. Voilà. Et la méthode, c'est très très simple. Prenez chacun une feuille de papier et vous allez, écrire sur la feuille de papier qu'est-ce que vous appréciez chez l'autre. Et en fait, c'est dans le détail de connaissance de l'autre qu'on arrive à voir si on a une vraie appréciation de la personne en face ou si on est juste en train de se laisser aller dans la folle, le fol plaisir de l'amour.
C'est très intéressant parce que combien, hélas, d'hommes ou des femmes, on entend parler de son conjoint en des termes peu flatteurs. Il n'y a que les défauts qui arrivent dans les conversations. Et là, pour répondre à votre question, qu'est-ce que vous appréciez chez l'autre? Si ça commence par une liste de défauts et que les qualités sont dures à venir, c'est pas bon signe, Lucie Vincent, manifestement.
Oh là là, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je fais beaucoup de danse. J'ai écrit sur la danse, faites danser votre
cerveau.
Mais où c'est pertinent, c'est que je donne des cours de danse. Et souvent, on a des couples qui arrivent.
Parce que vous dites que c'est un ciment important, à un moment du couple aussi.
Mais la danse est très très importante. Et la danse est importante en particulier parce que je crois que c'est le moyen... Comment dire, le moins cher, le plus efficace que nous avons d'explorer notre environnement, d'augmenter l'apport de sensations à notre cerveau par le biais de notre corps. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'activités dans la vie où on fait
c'est
ça.
C'est vrai. Mais là, vous voulez danser en couple.
Et l'environnement...
C'est des slow, alors.
Non, pas du tout. Ah bon, non. L'autre fait partie de notre environnement. Et dans le couple, l'autre partie du couple, c'est l'environnement proche et on interagit beaucoup avec lui. Et quand on voit des couples danser ensemble, alors là, ça révèle beaucoup. Et en particulier, quand ils arrivent et on voit des gens qui vont se marier et qui veulent apprendre à danser ensemble, et ils passent l'heure à s'engueuler.
Et c'est mal barré.
Mais je me dis, John Gottman, il ferait bien de venir à un
Est-ce que quelqu'un s'oppose à ce mariage? Bah ouais, manifestement, ça commence à aller pas dedans.
De danse. D'ailleurs, John Gottman a réussi, quand il a commencé son travail, c'est un psychologue, John Gottman, qui avait fait quelques petites études de mathématiques, et il s'est retrouvé très vite face à des choses assez complexes. Il voulait le formaliser et il cherchait un mathématicien qui pouvait résoudre ce problème. Il se trouvait que sur le même campus, il y avait un mathématicien qui pouvait l'aider, et il a été le rechercher, lui demander de formaliser ses équations et des méthodes et de l'automatiser, parce que maintenant c'est même plus sur un papier. Ils mesurent, ils font des conversations et tout est mesuré par des caméras de façon très très fine. Et ça s'est mis sous forme d'équation et les paramètres. Et l'intelligence, en tout cas, pour moi, il y a l'attractivité dans le physique, mais il y a en fait un grand terme qui s'appelle le grand A, mais le grand A. Et ce A contient énormément de choses qui sont l'attractivité, le mensonge sur la marchandise, le fait d'être intelligent, le fait de prendre soin de l'autre. Et c'est ce que je dis de toute façon dans mon dernier modèle, parce que c'est le dernier modèle que je propose, c'est le mien. C'est justement de prendre soin de l'autre. Et ça, c'est extrêmement important pour la durée du couple.
Et
parler entre eux et prendre soin de l'autre.
Et parce qu'il faut dépasser cette formule de l'amour dure 3 ans, qui avait donné lieu à un joli film de Frédéric Beck BD, qui est basé sur vos recherches. Et on va y venir, Lucie Vincent, parce que vous, ça fait 15 ans en couple, bientôt, et on espère pour tout le monde que ça dure le plus longtemps possible. On peut donc dépasser ce cercle ou ce circuit un peu fatal. À tout de suite sur Europe 1 pour parler de la fameuse ocytocine, ma chère Lucie Vincent. Et là, je vais vous laisser le micro parce que c'est quelque chose d'absolument passionnant. Neurobiologiste, vous l'avez étudié. Faites danser votre cerveau aux éditions Odile Jacob, et Laurent Pugeot-Mangeois est avec nous pour ce jeu de l'amour sans le hasard, les mathématiques du couple aux éditions Équator Science. À tout de suite, Julie. We'll be right back.
All you need is love, bien sûr, c'était les Beatles.
Voilà, on est obligé de vous parler d'amour aussi en chanson ce matin pour évoquer les couples. Comment se construisent-ils? Comment durent-ils aussi ces couples? Des modèles mathématiques depuis une vingtaine d'années s'y intéressent et votre livre rend la chose très accessible en France. Laurent Pugeot-Manjouet, Le jeu de l'amour sans le hasard, on va y venir aux équations qui peuvent expliquer qu'un couple durera ou pas et comment justement maintenir le plus bel équilibre pour que ça dure, parce que c'est bien l'enjeu. L'enjeu, c'est d'être positif et d'y croire. Hein. Et là, on n'est pas simplement dans l'ésotérisme.
C'est exactement ça.
C'est très rationnel. Juste un petit mot, Lucie Vincent, avant de parler de l'ocytocine qui va vous rapprocher. On évoquait votre dernier ouvrage sur la danse. Faites danser votre cerveau, vous qui êtes neurobiologiste. Finalement, quand on voit beaucoup de très vieux couples, et c'est pas péjoratif, hein, mais qui ne savent plus vraiment se parler dans la vie et qu'on retrouve sur une piste de danse, et là, qui sont dans une complicité, dans une alchimie magnifique, c'est-à-dire que c'est un nouveau langage qu'ils trouvent aussi pour se comprendre et s'apprécier.
C'est une autre façon d'interagir avec l'autre, quand on a épuisé tous les discours. Parce que souvent, quand on commence à se fâcher sur un sujet d'argent, d'éducation des enfants, c'est toujours les mêmes choses. L'un dit un truc, il dit toujours la même chose, l'autre répond toujours la même chose. Mais quand on a épuisé ça, et il faut se parler différemment, on se parle avec l'école. Et là, quand on se met dans une situation d'apprentissage de pas de danse, moi j'apprends et j'enseigne les danses de salon, eh bien on a un objectif en commun et on est obligé chacun de jouer son rôle pleinement au sein du couple. Et à ce moment-là, il se met en place un autre type d'échange où on voit très très bien comment fonctionne le couple. Vous avez raison.
Oui, et on voit aussi qu'il y a quand même une question sensorielle, vous le disiez, de chimie, d'alchimie, d'attirance pour la peau aussi. Tout ça est peut-être lié en partie à la fameuse ocytocine. Vous avez travaillé brillamment sur cette hormone, hormone de l'attachement, Lucie Vincent. C'est l'hormone qui est diffusée très tôt entre la maman et son bébé. Ça commence comme ça, l'histoire?
Mais c'est une hormone qui existe depuis très, très loin dans l'évolution. Même les vers de terre ont de l'ocytocine. Mmh. C'est une hormone qui joue un rôle.
Oh non, pas les vers de terre. Si, attends, on a fait une émission magnifique sur les vers de terre. C'est passionnant.
Mais, et déjà, l'ocytocine est nécessaire pour expulser le fœtus au moment de l'accouchement. C'est l'ocytocine qui joue ce rôle. Et la nature étant économe, on utilise la même hormone pour créer le lien entre la mère et l'enfant. Et ce sont des chercheurs américains, en fait, qui ont été les pionniers, qui est très, très brillant dans la découverte de toutes les fonctions de l'ocytocine dans le lien social. Et ils travaillaient sur des voles, les petits... j'ai oublié le mot, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas parlé. Comme des petits... des petits rats.
D'accord.
Et les différentes espèces ont différents comportements sociaux. Et il y en a qui restent ensemble toute la vie avec le même partenaire. Et les compagnols, voilà.
Les compagnols.
Oui. Et il y a une autre espèce qu'ils ont, ont observé dans le laboratoire,
oui,
qui a un rapport sexuel avec un partenaire. Et ensuite, ils ne se voient plus. Ils se séparent. Et quand la femelle met bas, elle s'occupe très peu de temps elle-même de ses enfants qui sont laissés eux aussi dans la nature. Alors, deux modèles sociaux totalement différents. Et en regardant le cerveau de ces deux espèces, on a constaté que la disposition des récepteurs à ocytocine était très, très différente entre les deux espèces. Alors bon, à partir de ce moment-là, on a dit « Ah, c'est l'hormone de la fidélité, oui, du lien, oui, etc. » Mais on s'est rendu compte que chaque espèce a une disposition différente de récepteurs à ocytocine selon son contexte. Parce qu'on comprend très bien que s'il y a beaucoup de prédateurs dans un environnement, mais cet environnement est riche en nourriture, il vaut mieux rester groupé. Tandis que s'il n'y a pas beaucoup de prédateurs et qu'il n'y a pas beaucoup de nourriture, il vaut mieux que chacun se sépare pour aller chercher sa nourriture et il ne risque pas grand-chose à être seul. Alors c'est selon vraiment le contexte biologique qu'on a évolué pour avoir un tel comportement social.
D'accord. Et pourquoi on en a tiré la formule ensuite presque modélisable mathématiquement, Laurent Pugeot-Manjouet, de l'amour dure 3 ans? Parce que vous vous référez notamment à cette hormone de l'attachement aussi, l'ocytocine, pour expliquer ce cycle.
Oui, complètement. C'est-à-dire que le premier modèle le plus simple, celui de 88 pour les étudiants, pour les intéressés, était basé sur quels sont les types de paramètres qu'on peut obtenir pour avoir quelle forme de courbe. Il y a des courbes qui vont exploser, c'est-à-dire que le couple va se séparer très vite.
Oui.
Et il y a, suivant certains types de paramètres, une sorte de cycle qui va s'opérer. Mm-hmm. Et on peut vraiment le voir que suivant, justement, on peut l'interpréter avec les hormones, suivant le fait de l'érosion du couple, ça va descendre, mais à un moment donné, va s'opérer avec les mêmes paramètres sans les changer, sorte de remontée qui sera pratiquement naturelle et qui va remonter le couple. Mais ça, on a mesuré, ça faisait 3 ans.
Ah,
et donc,
d'accord.
En fait, le temps qu'on fasse le tour du cadran de ces 3 ans, bah, quelquefois, on se sépare quand on est dans le plus bas,
oui.
Alors qu'il faudrait juste un tout petit peu attendre,
oui.
et remonter. Et c'est ce que je dis dans le livre avec les équations. Ce qui est important, c'est justement pendant la rencontre et les 3 premiers mois, 6 premiers mois, il y a une sorte d'explosion de ces hormones-là. C'est ce que vous disiez, le cerveau est complètement mélangé, etc. Puis après, ça se remet en place. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir booster les ocytocines et les provoquer. C'est-à-dire qu'on ne va pas provoquer des accouchements ou faire des choses comme ça. Ce qu'il va faire, c'est que juste offrir des fleurs ou faire un compliment, pas tous les jours nécessairement, mais juste reconquérir l'autre, est un vrai travail. C'est-à-dire, ben Julie, par exemple, vous êtes en couple depuis 38 ans. Ce qui se passe, c'est que ben, vous relancez la machine de temps en temps en disant ben, c'est une reconquête. Moi, c'est ce que je pense en tous les cas, reconquête du couple. Tous les jours,
Julie.
C'est jamais acquis.
Ouais. Effectivement, il y a un épisode dans notre vie qui a relancé la machine, c'est qu'on a déménagé, parce que je n'aimais pas le quartier et l'appartement où j'habitais avant. Et depuis 2 ans, c'est reparti, c'est l'amour, comme au début, grâce à un nouveau quartier et un nouvel appartement génial.
Voilà.
Ah, voilà.
Et
donc,
ouais. Et ça s'explique dans les équations, c'est exactement
voilà.
Ça. Il faut
qu'il
booster
y un truc,
vos ocytocines.
Exactement.
Ouais. Et n'oublions pas c'est la beau. Façon la plus évidente de faire sécréter de l'ocytocine chez soi et chez l'autre, c'est de faire l'amour.
Oui.
Ah oui, c'est ça. C'est aussi l'acte sexuel et le plaisir favorise l'ocytocine et l'ocytocine favorise le plaisir. Enfin, on est dans un cercle vertueux. Hein,
il y a plein de trucs. Par exemple, juste le fait de dire un mot gentil à l'autre.
Juste un regard.
Ouais.
Non, puis faire rire.
Voilà.
Faire rire, se faire rire l'un l'autre.
Oh, je vous aime. Merci pour ces, pour ces
mais
conseils.
Mais c'est complètement
mais oui, mais c'est beau, voilà. Bah, on est dans l'amour, dans ce studio, ça irradie manifestement.
Je vais vous faire pleurer, non, je vous fais pleurer, là, Wendy, vous voulez des Kleenex ah,
bah, non, mais ça m'émeut tout
émouvant,
ça,
ce
c'est beau,
dis.
Mais oui. À tout de suite.
Comment expliquer l'alchimie du couple, Wendy Bouchard?
Oh, vaste programme.
On aura encore
pas,
quelques questions.
On n'aura pas 45 minutes pour y répondre.
À cette interrogation.
Mais en tout cas, je vais déjà vous recommander les livres de nos invités qui vous ont peut-être captivé, je l'espère. Il y a quelques instants encore, Lucie Vincent, Faites danser votre cerveau. Premier livre aux éditions Odile Jacob. Plein d'ouvrages sur l'amour, notamment l'amour de A à XY, toujours chez Odile Jacob. Et Laurent Pujot-Mangeouet qui nous présente son jeu de l'amour sans le hasard, mathématique du couple. À l'instant où nous évoquions et vous évoquiez votre départ d'une maison qui a changé aussi votre manière de voir votre mari, Julie, et vous êtes peut-être nombreux dans ce cas-là.
Non, ça m'a guéri moi
ça
de la déprime
guéri,
surtout.
Suzanne nous écrit de Lille. Mon mari est décédé après 67 ans de relation. Nous étions unis et heureux. Quand mon mari est décédé, j'ai commencé à écrire des lettres pour lui tous les soirs. Elle a écrit 13 cahiers. Ils rigolaient beaucoup tous les deux. Voilà, elle est dans cet attachement. Il y a du Pétrarque chez Suzanne. Hein. C'est beau, Laurent.
Alors là, c'est Pétrarque. Bah, il faudrait qu'elle publie puis qu'on analyse ce genre
ouais,
de cycle.
On va lui envoyer votre livre, Laurent, à Suzanne. Isabelle, l'amour est-il le fruit du hasard? J'ai connu mon mari quand nous avions 10 ans. Il est arrivé en CM2. Notre institutrice déjà a vu qu'il se passait quelque chose entre nous. Nous avons aujourd'hui 4 enfants. Lucie Vincent, ça, c'est magnifique. Hein,
ouais.
L'histoire d'Isabelle.
Oui, on adore. C'est
ouais.
Drôle comme on adore des histoires d'amour.
Ben oui.
Il n'y a rien de tel. on est tous concernés par des histoires d'amour et on veut que ça marche. Il faut dans les films que ça finisse bien.
Ben voilà. Donc, eux,
mais
ils ont dépassé 70 cycles d'ocytocine hein, depuis 10 ans.
Oui, mais c'était une rencontre. Et puis le fait de grandir ensemble, ça peut aussi créer le lien parce qu'on crée des repères
des
en
ouais.
commun. Oui, des références en commun. Et ça peut aider dans la durée du couple.
Un couple magnifique que je connais bien, elle nous écrit, Patricia et Gérard, qui sont mariés depuis 54 ans. Pour les connaître, ils sont magnifiques. Ils s'aiment, ils s'écoutent et vivent 24 heures sur 24 ensemble. On partage et on aime les mêmes choses. Voilà pour ce référentiel qui permet de conserver cet équilibre aussi, Laurent. Alors, peut-être n'ont-ils pas fait exprès d'avoir des choses en commun ou que cela dure. Il y a aussi des petits miracles. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se forcer.
ça dure simplement.
Ce qu'on espère, c'est juste l'épanouissement de son partenaire. Mm. Et c'est le plus important. C'est-à-dire que moi, en l'occurrence dans mon couple, ce qui est super important, c'est de voir l'autre heureux. Une fois qu'on passe par l'autre et qu'on n'est pas égoïste dans un couple, ça marche du tonnerre. Là où les couples qui ne réussissent pas, en général, c'est quand il y a l'un ou les deux qui sont vraiment égoïstes et qui ne font pas attention à l'autre. Le fait de voir l'épanouissement de l'autre est quelque chose... Alors ça peut être commun, mais pas nécessairement.
Lucie, Vincent.
Oui, et moi j'appelle ça les modes séduction et mode droit. Parce que je trouve que pendant le début d'une histoire d'amour, on est en mode séduction. Oui. Et effectivement, on veut plaire à l'autre et on pense à l'autre. Mmh. Et puis il arrive un moment, et quelquefois c'est le mariage qui crée ce moment, où on passe de l'autre côté et on n'est plus en mode ce que tu me dois.
Oui, c'est ça.
Au lieu de penser à ce que je te dois et
ça,
comment, et ce que tu dis, se concentrer sur comment rendre l'autre heureux et s'occuper de l'épanouissement de l'autre. Tout en s'épanouissant soi-même, parce que bon, ça va ensemble. Mais si tout le monde pensait à ça juste de temps en temps, ça changerait tellement la vie d'un couple.
L'amour de A à XY, qu'est-ce que ça veut dire, Lucie Vincent ?
Mais oui, parce que j'ai mis sur toutes les lettres de l'alphabet, il y avait un sujet. Hein, il y a beaucoup de choses à dire sur l'amour. Et XY, parce que quand même, les chromosomes, ça joue un rôle.
Ouais, ouais. Il y a quand même des différences entre manière de d'équilibrer l'amour au féminin ou au masculin.
Et il y a la différence entre l'homme et la femme, et là, personne ne me contredira, je pense, c'est que l'homme a un pénis, la femme a un vagin et des seins. Mm. Et la femme, elle met l'enfant au monde, et l'homme, il la regarde faire, il fait de son mieux pour l'entourer, la protéger, dans le mode de l'évolution de l'homme. Alors, ces deux faits biologiques vont de pair, avec une stratégie comportementale pour optimiser ces deux fonctions biologiques. Et nous gardons encore les restes de ces stratégies comportementales en nous.
Lucie, Vincent, faites danser votre cerveau et cet amour de A à X chez Odile Jacob. Dernier mot de quelques secondes. On va se quitter en musique, Laurent. Mais demain, vous fêtez vos 15 ans de couple. Voilà, oui. Donc vous êtes une illustration vous-même de ces mathématiques qui fonctionnent.
Hein, oui,
le mois de juin, le mois des mariages.
Voilà, c'est de la mathématique. Mathématiques appliquées. Voilà, on vous recommande cet ouvrage qui est formidable, très accessible avec beaucoup de références littéraires et musicales. Celle-ci, par exemple, Laurent Pugeot, Manjouet aux éditions Équator Sciences. Merci beaucoup.
Merci Wendy.
Pour votre venue en studio et merci Lucie, Vincent.
Merci à vous.
Et dansez, les amis. Hein. Regardez comme c'est beau, Gilles.
Stand by me.
By me. À demain, c'est François Claus qui vous reçoit demain pour le tour de la question, ma chère Julie. Je vous retrouve lundi. Merci beaucoup.
Okay.
Ciao, ciao. Vive l'amour.
À bientôt, Wendy.